Jai Kalun Tai Balun Kalino Sayuntaleya Hum Tale Janine Tatai Huetune Janini Tai O Paratela Hi Ukala Lina Nune Ashaya Toe
Le miroir des âmes simples et anéanties, et qui seulement demeure en vouloir et désir, passa sitôt écrit de mains en main. Il fut lu à plusieurs voix par ses sœurs au pied du tilleul dans la cour, joué en place publique dans les rues de Valenciennes, et envoyé sur les routes vers les béguinages de la plaine des Flandres et de la vallée du Rhin. Deux murmures s'élevèrent entre les murs et hors les murs, un murmure de raison et un murmure d'amour. Certaines âmes entendirent les paroles de Marguerite et se reconnurent dans ces mots. D'autres y restèrent sourdes et fuirent leurs reflets. Son évêque, l'évêque de Cambrai, finit par prendre ombrage de ce mouvement de foule qui agitait le comté du Hainaut. Jetant son discrédit sur le miroir, il fit brûler le livre comme hérétique sur la place d'armes de Valenciennes et interdit Marguerite d'en faire des copies. Clamant fort sa colère et son ressentiment, brandissant à grands cris une menace pour toute la chrétienté et ses saintes vertus. À la demande de l'évêque, Marguerite était présente quand son livre fut brûlé. Elle vit le tas de bois, la torche, le feu, les flammes et la fumée. Elle vit le miroir partir en cendres. Abîmée dans un profond silence, elle qui avait eu pour seul enfant ce bel enfant de mots, elle offrit à Dieu sa condamnation, gardant confiance et traversant cette épreuve sans se troubler. Des épreuves, elle en avait connues maintes fois dans sa vie. Celle de Valenciennes, celle du béguinage et celle de son chemin de prière. Après avoir connu dans sa vie un emmurement, suivi d'une nuit de doute et de mendicité, elle était désormais confrontée à l'incompréhension de l'Église. Mais à chaque fois qu'elle avait été accablée par une épreuve, elle l'avait traversée en sa chair, son cœur et son esprit pour renaître à demain. Marguerite savait que les petites comme les grandes épreuves sont des ouvertures et des passages dans les murs par lesquels entrer dans la vie. Que les épreuves sont comme la mort, un jugement. Des délivrances successives par lesquelles naître au vivant. Pendant toute l'écriture du miroir, Marguerite avait gardé à l'esprit qu'elle pourrait être entendue par certains et mal entendue par d'autres. Dans de nombreux chapitres de son livre, elle avait interpellé ses lecteurs et ses auditeurs sur ce point, comme si ses mots avaient besoin de pénétrer les chairs, les cœurs et les esprits. Clairvoyante, elle était aussi visionnaire. Elle savait que Sainte-Église, la petite, était en train de perdre, par manque d'entendement, la lumière divine pour voir au plus profond des âmes. Qu'elle s'éloignait d'amour et du royaume du vivant. Ces mots n'étaient pas seulement des lettres visibles, mais des paroles à entendre et comprendre pour faire toute chose nouvelle dans l'invisible, faire sens et faire chemin. Et de fait, le miroir était bien devenu un malentendu aux yeux et aux oreilles des malentendants. Marguerite avait beau s'être montrée sous un visage raisonnable, discernant entendement de raison et entendement d'amour, l'évêque de Cambrai s'était senti montré du doigt sous les traits de Sainte-Église la Petite. Sourd, par excès de mentalité religieuse, il refusait de se laisser toucher et mouvoir par cette béguine de chair et de sang. Il lui fallait faire autorité religieuse et effacer au plus vite toute trace de ce chemin de femme. Toute trace de cette exploration d'amour et de ces découvertes dans le vent du large. Toute trace de cette capture de haute mer. Qu'est-ce que la chair, le cœur et l'esprit d'une femme? Un piège et un danger. Ses sœurs Béguine se demandaient, et elle lui demandait, si elle avait eu raison d'écrire ce livre. Pour Marguerite, c'était une fausse question, car la seule vraie question était « Avait-elle eu amour à écrire ce livre ?» Et c'est là que s'était sûrement glissé non le mal, mais l'erreur, faisant de ce livre plus qu'un malentendu, une malédiction. Car Marguerite avait tout autant eu que perdu amour à écrire ce livre. Ce miroir, elle l'avait mendié à Dieu pour que de ses visites restent derrière lui des souvenirs plus qu'une simple mémoire. Tant que Marguerite avait accepté de laisser ses visites de l'époux nourrir de grains sa mémoire, elle était dans le juste, accordée à la vie, dans une concorde parfaite avec son amant subtil. Mais voilà, elle s'était mise à quémander de lui la paille du souvenir, pour faire une demeure confortable de ce livre. Certes, elle avait désiré faire honneur à Dieu en lui écrivant un livre où il puisse demeurer et se faire entendre. Mais c'était bien pour elle mettre Dieu en demeure, alors que Dieu n'est pas là où les hommes et les femmes, fussent-ils de prière, le mettent en demeure. Pas rien que là, car partout, ailleurs. Marguerite avait désiré forer une ouverture dans les murs d'église pour que la lumière d'amour entre à grands flots dans les chairs, les cœurs et les esprits. Mais au lieu de murmurer à l'oreille du vivant et d'offrir au lecteur ce murmure, elle s'était adressée de fait à toutes les âmes, les péries, les égarées et les anéanties. Par ce livre, elle avait donné aux mains qui mendient, se croyant peut-être par là, plus riche qu'elle, elle qui se savait pourtant pauvre et qui avait pour seule richesse cette pauvreté. Certes, elle avait demandé une aumône à Dieu pour aussitôt la redonner dans une main mendiante. Mais ce livre n'en avait-il pas perdu par là même sa justesse? Était-il juste pour elle, pour Dieu et pour toutes les âmes? Il y avait en ce miroir comme une mission impossible, une faute d'accord, une présomption. Et pire encore, pour elle, qui était lucide, un acte de vengeance. Plutôt que d'enseigner, elle avait distribué l'aumône en humiliant raison et tous ceux qui n'entendent que par elle. L'erreur, s'il y avait erreur à reconnaître, venait du fait qu'il n'y avait pas besoin essentiellement de livres. Car les hommes ont apporté de main deux livres qui se reflètent et s'impriment l'un dans l'autre. Le livre de la vie et le livre de leur âme. Ces livres, Marguerite avait acquis la science d'amour pour les lire à cœur ouvert. Ils contenaient plus que l'univers, car d'eux s'écoulait le temps. L'évêque de Cambrai, en brûlant le miroir, avait voulu justement arrêter le cours et les méandres du siècle, faire barrage au temps. Marguerite savait que l'humanité pouvait s'abandonner à la main de Dieu ou, au contraire, tirer sur la corde comme un âne têtu pour prendre la main et aller dans le sens où elle s'entête d'aller. Dans son âme simple et anéantie, elle ressentait si fortement l'avenir. Elle savait que cette aiguille par laquelle passe le chameau à chaque entrée de ville pour s'acquitter du péage de sa charge est la volonté. La volonté propre ou l'abandon à la volonté divine. L'évêque de Cambrai avait voulu proprement entraver l'avènement dans le temps de cette science d'amour. Le miroir qui brûlait devant elle était donc en quelque sorte le livre maudit, celui dont les hommes d'Église ne pouvaient dire que du mal, celui que Dieu ne parvenait pas à écrire à main nue dans l'âme humaine. Un livre sujet à un malentendu et à une malédiction qui conduirait peut-être Marguerite à sa perte. Mais ce livre, elle l'avait écrit par toute sa chair, par tout son cœur et par tout son esprit, et elle ne le reniait pas. Elle était prête à brûler dans les flammes avec lui et partager le même sort, le même mauvais sort. Jésus-Christ n'avait-il pas dit à ses disciples « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Le seul chemin de vie n'était-il pas la vérité? Pour Marguerite, il n'y avait plus de place pour le mensonge, encore moins pour le mensonge fait à soi-même pour se cacher aux yeux de Dieu. L'esprit qui l'avait inspiré ne lui avait jamais menti. Il était la vérité de sa prière, de sa vie et de son écriture, le témoin de son miroir. Oui, elle avait dit la vérité. Dût-elle en mourir? À la fête de Marie, moins de 2 ans après, tout se précipita, ouvrant un précipice sous les pieds nus de Marguerite. Un précipice de noirceur et de ténèbres. Soudain, l'orage qui menaçait éclata pour de bon. Les eaux en crue montèrent, l'inondation gagna la cour du Béguinage et la maison de Marguerite. Mais dans cette tourmente, sa chambre haute s'avéra imprenable. Imprenable, car construite sur le roc de la joie. Construite sur l'abîme de silence d'une âme simple et anéantie. La vie avait repris pourtant son cours et surtout tous ses droits. Si le feu avait consumé le miroir et les flammes fait leur œuvre, Marguerite apprit, quelque temps après, que des copies de son livre circulaient en secret sans qu'elle y soit pour rien. Sa parole interdite dépassait l'interdit. Le bûcher avait été un mal pour un bien. Une violence extrême, mais non irréparable. Marguerite laissa faire. Le printemps revenait et sur cette terre brûlée par l'opprobre, refleurissaient les fleurs sauvages et repoussaient l'herbe drue. Elle laissa faire, puis bientôt y mit du sien, en voyant le miroir acquis de droit, accueillant en sa maison celles et ceux qui venaient lui parler de son livre et lui demander conseil. Pourquoi priver les âmes de la lumière? C'était mettre la lampe sous le boisseau que de voiler le miroir et cacher sa lumière de connaissance. Si le temps de la moisson était arrivé, il lui fallait retrousser ses manches et se mettre à l'ouvrage, ne rien laisser s'éteindre. Moissonner au nom du loin près. Mais de cette moisson abondante d'été, certains prirent peur entre les murs du béguinage, dans la ville de Valenciennes et dans le comté du Hainaut. Marguerite, décidément, s'accrochait au miroir et risquait de faire chavirer le navire où tout s'était embarqué. Son évêque, l'évêque de Cambrai, la dénonça donc à l'inquisiteur du royaume, Guillaume de Paris. Marguerite fut envoyée à Paris sous bonne garde en charrette, et deux procès furent instruits. Le sien, pour désobéissance, et celui du miroir, pour hérésie. Deux assemblées de théologiens et de canonistes se réunirent pour juger sous le regard de Dieu. Face à ces juges, Marguerite garda le silence, refusant de prêter le serment de loyauté requis. La lumière divine lui avait été donnée en abondance, dans sa chair, son cœur et son esprit de femme, inondant sa chambre nuptiale, et voilà que les ténèbres de l'Inquisition voulaient s'en emparer. Marguerite ne voulait pas être liée, et surtout liée Dieu, à cette mascarade. Elle ne voulait pas être parjure d'elle-même et de la vérité. Elle ne voulait pas jouer un rôle dans ce procès et sa condamnation. Ce miroir des âmes simples et anéanties était sien, mais aussi le sien, celui de Dieu. Un bel enfant de mots désiré et conçu à deux. Fils bien-aimé de la lumière et d'une épouse de la lumière, fils du vivant et d'une vivante. Marguerite avait toujours su que l'orage pouvait gronder, qu'il commençait à gronder, qu'il grondait déjà près et loin. Mais n'avait-elle pas écrit dans une page du miroir qu'elle était prête à tout recevoir de la main d'amour? Qu'elle ne voulait pas qu'intercède pour elle la Vierge, la douce humanité de Jésus-Christ, les anges et tous les saints du ciel, si cette main la repoussait dans les tourments éternels. Elle était à amour et libre de ne jurer que par lui. Libre de refuser tous ses jeux de main et ses jeux de vilain. Il y avait dans ce procès plus que sa vie en jeu. Il y avait en jeu la vérité du royaume du vivant. Il y avait en jeu la vérité du regard de Dieu. Ce regard qui se penche sur la noblesse d'âme pour la simplifier et l'anéantir en lui. Or, ce regard, elle l'avait senti poser sur elle, alors qu'elle était assise et secouée dans la charrette en partance pour Paris. Alors qu'elle était mise au cachot. Ce regard de Dieu lui restait et il ne lui était pas refusé. Pourquoi détournerait-elle la tête pour l'ignorer? Pourquoi renierait-elle le miroir? Marguerite garda donc le silence devant ses juges. Après bien des paroles, ces derniers les condamnèrent, elle et son miroir, à disparaître dans les flammes. Le feu purifierait le royaume de France et toute la chrétienté de ce qu'il n'y avait pas lieu d'être. Une femme, relapse, et son livre, hérétique.
Hum ye inanana saya ka ulin ninni sonabre inana ke so ki chaye ange dilinin sa unama kelta asher nim sakali doya ya
Ima ušena ni male ina, šuna na lakre non so majšic. A me, un nome na jelo hoge, nimbala la je joganja, ušena ni rje malo, lejle, jano nonga lina. Un nome se hej žeja, un nome na jejo koje, usama napred, tite kad, tite kad.
Oh.